Ce matin, je vous avais annoncé un culte un peu particulier, et pour le partage et pour continuer dans cette dynamique de ce week-end d'église, qui a été, je crois, si on peut le mettre à l'honneur ainsi, collaboratif. Ils ont charbonné hier, ils ont travaillé, je puis vous le dire. Et puisque le week-end se continue, j'invite mes deux amis qui vont m'accompagner ce matin. J'aimerais qu'on puisse encourager Stéphanie et Michael. On peut les applaudir pour les encourager, ils ont besoin de... Prenez place, hop là. Voilà. On sent le trac un peu? Non, en fait, ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer, c'est pour ça qu'ils sont à l'aise. Voilà.
On n'a pas beaucoup dormi.
Ils sont concentrés, ils sont consacrés, c'est beau. Aïe, aïe. Bon, bienvenue. Bienvenue, je le dis, les amoureux, bienvenue, comment ça va?
Ça va.
Ça va? Ça va. Vous aimez toujours votre pasteur?
Oui.
Bon voilà, ça c'est dit. Des fois, le langage non-verbal parle plus. Il est instinctif, vous avez vu. Bon alors, du coup, ensemble, on va parcourir un peu, on va faire une synthèse un peu interactive, et c'est l'idée un peu de ce plateau. C'est pas le Sunday Night Show, c'est pas ça, mais on est dans cette interaction, dans ce partage collaboratif, et en tout cas, ce que je leur ai dit, c'est qu'ils puissent nous partager leurs ressentis, comment ils ont vécu les choses. On n'est pas là dans un quiz, ils ne marquent pas des points. Donc je vous demande de les encourager, si vous voyez qu'ils ont besoin d'être applaudis, vous y allez à fond. Voilà, ok? On fait ça?
Yes.
Ils sont consacrés, vous êtes bienveillants, ça fait une bonne paire, ok? Bon, ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ça fait combien de temps que vous fréquentez cette église?
Alors pour ma part, c'est depuis 2014, donc okay. Ça fera 11 ans cette année.
11 ans, ok. Et toi Stéphanie?
Ben moi, ça va faire peut-être un peu plus d'un an, okay. Voilà, depuis notre mariage, donc
super.
Fin 2023.
Ok. Bon. Et tous les deux sont bien investis. Vous faites quoi à peu près, voilà, que les gens situent un peu votre consécration dans l'église? Qu'est-ce que...
Alors, on est en responsabilité de la formation des disciples, des
ouais.
Nouveaux baptisés.
Super.
On est investi au niveau de la jeunesse, principalement.
Ouais.
Après, au service diapo aussi. Un dépannage à la sono pour moi. prédication sur les mardis soirs. Et Stéphanie œuvre aussi en dehors au niveau de l'aumônerie de la prison.
Des prisons, voilà, okay. Auprès des femmes.
Super. Trop bien. Alors, hier, on a eu toute une progression et on a commencé par cette thématique qui était un partage plutôt voilà, magistral ou une prédication sur cette thématique ouvrier avec Dieu et les hommes. Et on a vu la notion de collaborer. Ça veut dire quoi pour vous, collaborer? Qu'est-ce que vous avez compris de ce terme-là? Stéphanie, dis-moi.
En fait, de ce qu'on a compris, collaborer avec Dieu, c'est plus que travailler pour Dieu. C'est travailler avec Dieu, cette notion d'être ensemble, en équipe. Donc, ce qui implique de connaître Dieu, donc ouais. Apprendre à le connaître, accepter également que des personnes limitées que nous sommes, ordinaires que nous sommes, Dieu fait l'extraordinaire avec nous.
Amen.
Il rend les choses parfaites, il poursuit son œuvre avec nous. Et donc, ça nous demande aussi, collaborer avec Dieu, ça nous demande de lui obéir.
Ouais.
C'est être impliqué aussi, avoir une relation personnelle en dehors de l'Église aussi. C'est être chacun avec une relation avec Dieu et forcément, c'est apprendre aussi à avancer et à marcher par la foi.
Yes, c'est ça. On a vu quelques exemples comme les apôtres qui ont été choisis pour être avec Jésus. Et d'ailleurs, il est dit dans un cadre de persécution qu'ils avaient été reconnus pour avoir été avec Jésus. Donc il y a quelque chose. Quand on est avec Jésus, quand on marche avec Dieu comme Noé, eh ben, il y a un truc différent. Il y a une différence qui se fait. Et on n'a pas vu que collaborer avec Dieu, parce que ça déjà c'est énorme. On se dit waouh, comment Dieu peut se servir de nous, nous qui sommes si limités et imparfaits. Mais là où il y a un paramètre qui va venir pas simplifier du tout la collaboration, c'est que dans la Bible il est question d'une collaboration aussi verticale, horizontale pardon. Merci de suivre. C'est avec les hommes. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire collaborer avec les hommes?
Premièrement, c'est ce que Dieu nous appelle, ce n'est pas à travailler d'une manière isolée, ce n'est pas œuvrer chacun de notre côté et voilà, et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais vraiment, on est appelé à travailler tous ensemble, dans l'unité, à s'accorder aussi, parce que peut-être qu'on n'a pas au départ des points de vue ou des priorités égales, mais c'est s'accorder, être dans l'unité, c'est se parler, communiquer.
Super. Donc, est-ce que c'est optionnel de collaborer les uns avec les autres ?
Non. C'est...
Vas-y Stéphanie, pardon.
Juste pour un petit témoignage, comme vous avez pu entendre, j'interviens à l'aumônerie et on pourrait penser que c'est mon service, c'est mon appel et que voilà, ça me concerne, ça concerne notre couple. Mais en fait, c'est vraiment l'Église qui porte cette vision. Et je suis vraiment soutenue, portée par la prière de l'Église le mardi soir, quand vous priez pour les aumôniers, pour l'aumônerie. Et vraiment, je vois la main de Dieu et ça ne vient pas que de moi. C'est vraiment une vision ensemble. Et c'est ça, collaborer les uns avec les autres. Quand on vient me demander des nouvelles aussi, voilà comment ça se passe. Et que les gens prennent à cœur et se sentent impliqués, donc en accord avec cette vision. Du coup, c'est ça aussi, collaborer les uns avec les autres.
Trop bien, merci beaucoup. On peut applaudir, hein. L'œuvre de Dieu est grande. Il y a une diversité dans l'œuvre de Dieu. Et on a vu que le Seigneur avait placé des hommes en responsabilité. Et en ce lieu, nous avons une équipe pastorale, nous avons un conseil spirituel qui travaille dans la concertation, dans la collaboration, dans ce seul but d'appliquer la vision que Dieu a confiée à l'église de Colomiers, l'île Jourdain. Et c'est justement pour basculer sur ce deuxième thématique que nous avons vu dans la matinée. On a parlé de vision, on a parlé après de multisites, mais pour rester sur la vision de l'Église, je pense que tout le monde ne connaît pas la vision de l'Église. Qu'est-ce que vous avez compris, un élément de cette vision qui vous a marqué, Michael, dis-moi.
C'est vraiment de s'élargir, d'aller, de pas rester en fait enfermé, restreint
sur soi.
C'est vraiment s'ouvrir vers l'extérieur, c'est étendre, comme le dit le verset, c'est étendre nos cordages. C'est vraiment aller vers les autres, ce n'est pas vraiment restrictif à nos quatre murs.
Juste pour précision, c'est Ésaïe 54, voilà, le passage dont Michael parle, donc agrandir l'espace de nos tentes. Et c'est vraiment cet élargissement du cœur. Et plus on élargit notre cœur, non seulement aux choses de Dieu, à la présence de Dieu dans nos vies, plus ça nous pousse à aller vers les autres, en fait.
Amen. Hein. Et on ne peut pas élargir. Allez, ils vous encouragent. Vous êtes pertinents, hein, ils applaudissent. Et on ne peut pas élargir sans affermir les pieux. C'est-à-dire qu'on peut étendre tout ce qu'on veut si les pieux ne sont pas bien, bien profonds. Et c'est pour ça que la vision de l'Église, elle est sur la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est notre tout, c'est notre gage de sécurité, c'est notre appui. Et Jésus-Christ étant cette pierre de vérité, sur laquelle on peut fonder notre vie, c'est élargi. Mais affermis tes pieux et dans tout ce que ça va inclure, c'est-à-dire le prendre soin des gens et tout ça. Donc, je passe rapidement, si vous avez à cœur de lire en détail la vision, quelques exemplaires ont été posés sur le meuble blanc en sortant sur votre droite, vous pouvez prendre un exemplaire, c'est la vision de l'Église qui a été écrite, basée sur Ésaïe 54. Mais par la suite, cette vision, il faut bien l'appliquer. D'avoir des principes, c'est bien, et il faut, les principes sont là, ils nous permettent de continuer un chemin. Mais où est-ce qu'on va? Comment on le fait? Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on a voulu voir. Et il a été beaucoup question d'église multisite. Est-ce que, par exemple, Stéphanie, tu pourrais, ou Mickaël, en fonction de qui veut répondre, m'éclairer qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que vous avez compris, vous, hein, ce qui m'intéresse, c'est votre ressenti. C'est quoi une église multisite?
En fait, c'est tout simple. C'est une seule église. C'est pas plusieurs églises. C'est une seule église, mais qui va être en différents lieux, en différentes villes.
Ok. Et qu'est-ce que ça, en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a plusieurs lieux déjà?
Oui.
Oui, on a l'île Jourdain et Colomiers.
Ok.
Voilà.
Donc on a deux sites. Déjà, on est déjà dans cette vision. Ok. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, on a vu et ils ont travaillé en groupe sur les défis et les avantages. Parce que c'est bon de faire quelque chose, mais il faut être honnête et authentique. Et s'il y a des choses, des points de vigilance, des défis sur lesquels il faudra être bien vigilant. C'est bien de les mettre carte sur table. Est-ce qu'il y a un des défis qui vous a marqué hier dans les échanges qu'il y a eu? Quelque chose sur lequel nous veillons pour ne pas tomber dans des travers?
En fait, on a vu un des plus gros défis, en tout cas, c'est de former qu'un. en fait, dans cette vision, d'être en accord, en fait, et d'avoir vraiment ce même ADN et cette même vision en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, même si on est sur des lieux géographiques différents.
Oui, c'est ça. L'unité, en fait, ça a vraiment été un mot qui est revenu et je crois qu'il revient régulièrement, autant dans la parole que dans nos échanges hier. Et c'est vraiment l'unité qui est primordiale.
Ouais. L'un des autres défis qui a été mis en avant, c'était celui de, vu qu'il y a plusieurs lieux, ça fait plusieurs endroits en même temps, donc ça fait plus de personnes qui servent, et si c'est concentré sur ceux qui servent actuellement, il y a un risque de fatigue et d'épuisement, et l'un des défis qui s'est transformé au final en avantage, je le cite celui-ci, hein, après vous pourrez en citer d'autres, c'est que vu qu'on a besoin de personnes, ça va faire des espaces pour former, encourager les talents, et nous amener à regarder et faire confiance à ceux qui peut-être agiraient de manière différente et les accompagner pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a un autre avantage qui vous aurait retenu dans votre attention ?
Ben, c'est un défi et en même temps un avantage, c'est de pouvoir rayonner voilà, dans toute la région, d'être visible, d'être vu. Et le défi, bah, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort, voilà, de sortir de ses petites habitudes. Et c'est ça aussi, élargir l'espace de nos tentes, c'est de peut-être voir au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, de oser aussi, enfin, voilà. Et puis d'aller vers les autres, en fait. Hein. C'est pas évident, c'est pas un exercice facile, mais pourtant, c'est ce que voilà, Dieu nous encourage.
Amen. Amen. Et par la suite, après tout ça, on a réalisé qu'on avait deux sites. Je me bats avec mon micro, désolé. Hop. Hop là, merci. Il se fait la malle. On a vu qu'il y avait plusieurs sites. Et aujourd'hui, quand on parle de notre assemblée, on dit l'église évangélique Colomiers-l'Île-Jourdain. Plus long, ce serait compliqué à faire. Après avoir, pendant quelques mois, utilisé cette terminologie pour renforcer l'idée qu'il y a une église et deux adresses, vient à nous cette nécessité, c'est laquelle ?
D'avoir un nom.
Ouais, de trouver un nom. Et pour avoir une identité forte sur l'ensemble des sites. Aujourd'hui, c'est l'île Jourdain-Colomiers. Le Seigneur, il sait ce qu'il veut faire avec nous. Et on verra par la suite, si vous avez certainement regardé la... En rentrant, il y a une carte qui est affichée au fond de la salle. Vous aurez l'occasion d'y revenir en fin de culte. Mais ce nom, à quoi il va servir, selon vous ?
Déjà, avoir une identité commune. Ouais. Éviter, comme tu as dit, de rajouter des noms de villes. Parce que le but, justement, de s'étendre, c'est d'ouvrir des églises dans des villes, dans des communes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. Et si on vient à rajouter dans cette communion, en fait, église de nanani, nanana, à la suite, ça va faire très long.
Ouais.
Le but, voilà, c'est de trouver un nom qui soit représentatif, un nom qui puisse être accolé après à chaque nom de village, de ville dans laquelle une église sera implantée. Mais c'est vraiment d'avoir une unité et quelque chose qui soit autant pour nous permettre d'avoir une appartenance, une identité, mais aussi pour les personnes extérieures, au niveau de la communication, d'être visible, d'être aussi avoir un nom qui soit compréhensible des personnes, qui ne veuillent pas rien dire, mais un nom qui puisse interpeller.
C'est ça.
Et qui puisse vraiment attirer les personnes aussi.
Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà trouvé le nom ?
Non.
Voilà pourquoi nous vous proposons un grand sondage accessible à tous jusqu'au 15 mars. Et ce sondage, il est simple. Le nom que vous avez à cœur, ce que le Seigneur vous aurait chuchoté à l'oreille, on aimerait bien le connaître. Voilà pourquoi, sur un bout de papier ou en numérique, alors j'ai oublié de le faire pour aujourd'hui, mais ça va venir, vous l'aurez dans les annonces, vous pouvez marquer sur papier et placer votre nom dans la boîte qui est en sortant, qui s'appelle boîte à questions, elle est en bois. Vous pourrez mettre tous les noms. C'est un sondage et pas un vote, c'est-à-dire que ça va aider le conseil spirituel à choisir le nom de l'église. Okay ? Ce nom, il faut qu'il soit court. Voilà, on a compris que Église évangélique, Assemblée de Dieu de Colomiers, l'île Jourdain, ça commençait à faire très très long et puis surtout pas très limpide. Le deuxième objectif, c'est que ce nom, il doit être compris des personnes de l'extérieur. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'est pas de notre communauté, il puisse dire, là, ça me parle, j'ai envie, je crois qu'on va m'accueillir dans ce lieu. Ce nom devra porter aussi un peu la vision, l'ouverture de l'Église, ce que l'Église veut faire. Et la troisième chose, il ne faut pas qu'il cite dans le nom, il ne faut pas qu'il y ait Colomiers, ni l'île Jourdain, ni toutes les villes. Sinon, il faudra rajouter au nom les plus de 120 communes qui sont dans notre secteur du sud-ouest de Toulouse. Ça risque de faire très très long comme nom. Vous comprenez ? Donc ce sondage, il commence aujourd'hui. Il y a déjà un premier papier qui a été mis. Il y a une sœur qui était motivée là d'hier. Elle a déjà eu une idée, elle a posé un nom. Donc c'est ouvert. Vous pourrez le faire dès la fin de ce culte. Vous marquez sur un bout de papier, il y a quelque chose qui est sur votre cœur. Vous le mettez. Ça va nous aider avec tout le conseil spirituel à choisir le bon nom. Ok ? Ça va ? On continue ? Yes ! Ok. Donc ce nom, il est avoué à s'ouvrir, et pour ouvrir et pour s'ouvrir à nos contemporains, on le fait pas, et on a vu, de manière hasardeuse. On l'a vu que dans la Bible, il y avait des cartes, il y avait des localités qui étaient citées, il y avait quelque chose de construit. Et peut-être vous l'avez peut-être pas tous vu, mais il y a une carte derrière vous, dans l'angle de la salle. À quoi elle va servir, cette carte ?
Cette carte, en fait, elle va nous permettre d'avoir une visibilité, chacun, des endroits où les chrétiens sont implantés, ouais. Les églises actuelles sont implantées, et les futures, ben, quand il y en aura au fur et à mesure, ça pourra venir agrémenter cette carte. Ouais. Et c'est aussi un moyen par lequel on se rappelle qu'il y a une nécessité de prier. Ouais. Il y a vraiment un besoin d'être unis dans la prière, parce que sans la prière, ça ne sert à rien tout ce qu'on fait. Mais vraiment, c'est de se dire, voilà, on a ce visuel, on a tous ces noms de communes, on peut voir où il y a des personnes qui habitent, qui sont présentes, okay. Qui sont loin, mais du coup, de prier vraiment pour ces lieux-là aussi.
Ouais. Alors, pour ceux qui sont déjà allés voir, il y a des gommettes de différentes couleurs. Les petites bleues vont représenter chacun de vos foyers. Et l'objectif, ce n'est pas que votre pasteur les place à votre place, mais que vous puissiez, vous, prendre votre gommette et la mettre, vous repérer sur la carte. Si vous avez le moindre doute sur votre adresse, je l'ai dans mon portable, je pourrais vous dire. Mais normalement, c'est assez facile de placer sa gommette. Les gommettes oranges, on va y revenir juste après, mais sont des lieux ouverts, des maisons ouvertes, on va y venir juste après. Et les grosses gommettes roses sont déjà des lieux de culte identifiés, donc l'île Jourdain et Colomiers. C'est un support de prière, on va l'utiliser pour prendre des temps de prière, pour chercher la face de Dieu, et un peu comme il s'est passé pour Paul et toute son équipe, lorsqu'ils voulaient aller en Asie, le Saint-Esprit a dit non, lorsqu'ils ont voulu monter en Bithynie, Jésus s'est opposé, il a dit que l'Esprit de Jésus a été contre leur projet, pour les amener face à la mer, face dans cette ville de Troas, où ils ne savaient pas quoi faire, prêts à rebrousser chemin. Et puis là, dans cette nuit-là, Paul a eu une vision, il l'a évoquée à son conseil, à toute son équipe. Et alors, ils ont compris de suite que Dieu leur demandait de traverser cette mer et d'aller dans cette Macédoine, la Grèce d'aujourd'hui. Et on voit des dizaines et des dizaines de lieux de culte, de maisons qui se sont ouvertes. Vas-y, réagis, ah. Stéphanie, vas-y.
Juste pour rajouter, c'est en fait, moi, ce qui m'a interpellée vraiment, bah déjà, c'est de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'églises donc, dans le secteur, ouais. Et qu'il y a vraiment enfin, une réalité dans notre pays, dans notre région. Donc voilà, ça nous met vraiment, cette carte nous met vraiment face à la réalité dans laquelle nous sommes. Et ce qui m'a marqué aussi hier, c'est le fait que tu disais qu'on peut essayer.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Paul, il a essayé, mais le Saint-Esprit l'a arrêté, l'a amené dans d'autres directions, ouais. Jusqu'à ce qu'il arrive en Macédoine et où il a implanté les églises. Et le fait de faire la volonté de Dieu, d'être à l'écoute de son esprit, ne nous empêche pas d'être stratégique aussi.
Ouais,
et il faut être ingénieux au bien, il faut réfléchir, il faut s'entourer, il faut voilà, autour d'une table et discuter. C'est ce qu'on a fait hier. Et donc ça m'a beaucoup parlé et interpellé.
C'est sûr. Est-ce que vous vous rappelez de combien il y avait d'habitants dans cette région ?
260 000.
Ouais, c'est ça. Il y a plus de 260 000 habitants dans tout l'ouest toulousain. Combien de lieux de culte actuels ? En tout cas, pour notre famille d'église, on va dire.
Alors, sur la région toulousaine ?
Ouais,
ou
sud-ouest de Toulouse.
Alors, nous, on est deux, mais autrement, il y a 5 églises ADD représentées.
Pour plus de 500 000 habitants, à Toulouse même, il y a 5 églises. Ok. Pour 260 000 habitants, nous avons une église qui porte l'ensemble, en tout cas pour notre famille d'église, avec deux lieux de culte. On voit la nécessité d'être au plus près. Et vous verrez, hein, sous la carte, il est marqué que l'église multisite, bah, c'est être au plus près de mon prochain. Et comment on fait au final pour les atteindre? Parce que moi, j'habite à Colomiers, il y en a qui habitent au Burgos, il y en a qui habitent à Morins, Gimont, l'Île-Jourdain. Comment on fait pour atteindre? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas si vous vous rappelez, comment ça s'est passé pour l'Île-Jourdain? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au final, partir dans cette même orientation?
Ben, tout simplement, en fait, le début commence en... Et ça a commencé comme ça, avec une réunion de prière dans une maison, tout simplement. Il n'y a pas besoin de voir grand. Il faut commencer par le départ. Ouvrir une maison, un lieu où on peut se réunir, où on peut inviter des personnes, où on peut aller au plus près aussi des personnes. Parce que comme tu dis, c'est des lieux où, oui, quelques-uns d'entre nous habitent, mais il y a beaucoup de perdus qui habitent dans ces zones-là.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est des personnes qui ont besoin d'entendre. C'est pas uniquement... nous, ici, dans ces quatre murs, c'est toutes celles qui sont à l'extérieur, ont besoin d'entendre la vérité, ont besoin d'entendre l'évangile. Donc, premièrement, ça va commencer par prier pour ces endroits-là. Comme on a dit, la carte sert de support aussi pour prier. Ça sert aussi, voilà, de se dire, ah ben, à tel endroit, on est plusieurs chrétiens. On peut peut-être se réunir dans cet endroit, ouvrir une maison que le Saint-Esprit mette vraiment à cœur à quelqu'un d'ouvrir un moment, une soirée, pour partager, pour prier.
Parce que dès la fin du culte, vous pourrez prendre une gommette bleue et cette petite gommette bleue va représenter votre foyer. Si vous ne l'avez pas déjà fait hier, pour ceux qui étaient là, faites-le et que chacun puisse mettre sa gommette là où il habite, représentant une maison. Et ça nous permettra aussi, comme l'a dit Mickaël à juste titre, de voir où est-ce qu'on habite en fait, les uns vis-à-vis des autres. Okay. Là, on parle de maison, une maison qui s'est ouverte sur l'île Jourdain. C'est biblique ça d'ouvrir ces maisons?
Oui. Oui, c'est quand même le commencement de l'Église dans le Nouveau Testament. Ouais. Donc ça a commencé dans les maisons, oui. Donc,
okay. Et est-ce que vous avez un exemple d'un couple, par exemple, qui aurait ouvert sa maison?
Priscille et Aquilas.
Merci, je préfère que vous le disiez vous. Pour la petite anecdote, j'ai pas réussi une seule fois dans la journée à dire Priscille et Aquilas. En latin, c'est Aquilas, mais bon, bref, correctement. Donc là, encore une fois de plus, je me loupe. Mais voilà. Et donc ce couple-là a ouvert sa maison et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à ouvrir leur maison?
Déjà des gens sont venus.
Ouais.
Ça a permis voilà, par la suite d'avoir des implantations d'église, tout
c'est
simplement.
Oui, exactement. Ça a été des arrière-gardes ou des avant-postes, on peut dire, d'églises qui ont été plus tard soutenues dans ces maisons-là. Et... pourquoi c'est pertinent d'ouvrir sa maison? Alors, on l'a dit un petit peu, mais on ne l'a pas associé forcément à la maison. Qu'est-ce qui nous permet, par exemple, s'il y a quelqu'un qui habite au Burgos, au nord du département, ou à Morins, à l'ouest, quasiment près de Auch, à quoi ça sert qu'une maison s'ouvre comme ça?
C'est la proximité, déjà.
Okay.
Le fait aussi, peut-être, de mettre à l'aise les gens, parce qu'ils ne viendront peut-être pas dans une église en premier lieu, parce qu'ils ont des appréhensions, des préjugés, des craintes. Voilà, ils catégorisent l'Église dans tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est le fait de voilà que ça soit plus intimiste, moins formel qu'un culte le dimanche matin.
Il y a cette proximité là où j'habite, ma maison, elle rayonne et j'ai une adresse. Je suis connu peut-être si je suis inséré dans le tissu social, si je fais partie d'une association locale, j'ai une légitimité auprès de mes voisins. Et c'est ce qu'on a appelé les maisons ouvertes. Et en développant cette thématique de la maison, on a vu voilà, ce couple-là du Nouveau Testament, on a vu la maison de Zachée, on a vu la maison de Corneille. Et en fait, toutes ces maisons qui se sont ouvertes ont permis le salut de la famille, mais aussi de tous ceux, des amis qui étaient aux alentours. Et donc, il y a un côté pertinent à ouvrir sa maison. Mais comment on pourrait faire, nous, en local, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a abordé, si vous pouvez nous dire, un type d'outil, quoi. C'est pas la solution, mais...
La clé dans la porte et on ouvre la porte.
Ça, c'est ça. Mais on a abordé aussi, et cette thématique-là qu'on vous présente dans cette discussion-là, ce sont les soirées parenthèses. Alors, qu'est-ce que c'est, les soirées parenthèses? Est-ce que, là, comme ça, en brouillant, ce que vous vous souvenez?
J'ai
beaucoup parlé.
Ça serait une soirée, en fait, une fois par mois.
Ouais.
Ou à différents lieux qui pourraient s'ouvrir, il y aurait une soirée en fait où il y aurait une thématique qui pourrait être abordée,
okay.
Un sujet. Ouais.
La même thématique dans tous les.
Dans tous les lieux.
Dans tous les lieux.
Et ça une fois par mois. Il y a une semaine qui a été retenue.
La dernière semaine.
La
du
dernière
mois.
Semaine. Là il transpire, si je me trompe. Non, vous avez le droit de me retourner les questions si vous savez pas. Donc une fois par mois, la dernière semaine, nous ouvrirons nos maisons. Aujourd'hui, les trois points orange qui sont là sont déjà des maisons qui vont s'ouvrir sous ce format-là. Ils ont l'habitude de le faire dans des réunions de prière, par exemple sur l'île Jourdain, tous les 15 jours. Mais la dernière semaine du mois en cours, à l'île Jourdain, il y aura une soirée parenthèse sur Colomiers et sur Pibrac aussi. Mais quid des autres ? Qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Alors, on a prévu d'ouvrir aussi l'église. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire la dernière semaine de chaque mois dans l'église ?
Ben, une formation, parce que c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on sait tout d'avance comment ça va se passer. Et le but aussi, c'est de pouvoir travailler encore, comme on l'a dit, ensemble, dans la même vision, dans la même direction. Donc, le plus simple, c'est de se former déjà ensemble.
C'est ça. Donc, l'église sera comme un centre d'entraînement pour de futurs hôtes et futurs animateurs. La disposition de la salle sera différente. Il y aura des tables un peu partout et on fera comme des salons, okay, autour d'une table où chacun pourra se retrouver. L'idéal, ce serait par proximité géographique. Et après, bon, certainement, les affinités vont rentrer en jeu. Mais on pourra, et à mes côtés et aux côtés du conseil spirituel, on pourra former ces futurs animateurs, mais aussi ces hôtes. Parce que quand on parle d'ouvrir sa maison, pour certains, ce n'est pas forcément avec joie qu'on va le faire. C'est notre intimité, c'est notre chez-nous, c'est notre lieu préservé. Peut-être que c'est bien aussi d'apporter un cadre à cela. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps ça va durer une soirée, par exemple ?
1h30.
1h30. L'exemple, on s'est dit 20h, 21h30, c'est un exemple comme ça. Et où, en fait, c'est assez cadencé, c'est rythmé. Et comme ça, l'hôte, il n'est pas pris en otage. Celui qui ouvre sa maison ne se dit pas « j'ai des gens jusqu'à minuit et demi ». On ne va pas le souhaiter. Donc, dès le départ, on le sait, nos maisons, pendant 1h30, sont ouvertes. Si ça veut discuter, on s'appelle, on se donne rendez-vous plus tard, on prend le café plus tard. Ok ? Cette thématique, est-ce qu'il y a des exemples de thématiques qui vous viennent, vous aimeriez vous aborder ?
On a vu par exemple hier dans notre groupe la gestion de l'argent.
Gestion de l'argent, ok.
Voilà, et l'idée c'est quand on aborde une thématique, notamment peut-être aussi sur les émotions, la gestion de la colère et tout, c'est une thématique un peu générale donc qui concernerait même un athée ou un non-croyant, et amener à la lumière de la parole comment Dieu gère ces thématiques-là, lui.
Super. En fait, l'idée vraiment c'est d'avoir une soirée qui, dans la thématique, salut Josué, en entonnoir, c'est-à-dire que c'est général au début et puis on resserre toujours sur la personne de Christ. L'évangile est annoncé de manière différente, mais l'évangile avec tout ce que ça inclut, parce que l'objectif c'est d'apporter la bonne nouvelle dans toutes ces communes qui sont autour de nous, ok ? Donc ça c'est pour l'aspect thématique, c'est pour l'aspect aussi organisationnel. Mais peut-être qu'on peut se demander, les objectifs on les a cités, mais quand est-ce qu'on commence en fait ? Comment on peut le faire ?
Maintenant. Non, ça, on a vu février, mars, en tout cas pour la formation, c'est-à-dire de se retrouver en église pour être formé, pour voir comment se passerait une soirée parenthèse.
Okay.
Et ensuite à la rentrée, je pense, je ne sais pas.
On va prendre les choses comme elles viennent. S'il y a assez de monde pour assez de maisons à ouvrir, on ouvrira les maisons. S'il y a assez d'animateurs formés, on ouvrira des maisons, et ainsi de suite. On le fait avec les personnes qui sont présentes, les personnes qui remplissent bien sûr des critères spirituels, qui peuvent porter un message qu'ils vivent eux-mêmes, un bon témoignage. Quand on ouvre sa maison et que les voisins entendent des cris, c'est pas forcément le bon choix de maison. Donc on est dans cette attitude du témoignage et de l'accueil, un accueil chaleureux et intimiste. Amen. Vas-y, Mickaël.
Le but, en fait, c'est de la formation, ça va pas être celui qui vient à la formation s'engage pas à ouvrir sa maison. C'est vraiment une formation, et peut-être que c'est pour aujourd'hui, peut-être que ça sera pour dans quelques mois, dans quelques années, peu importe, mais la formation, elle est pas du tout engageante, mais ça permet d'avoir quelque chose, un cadre, des outils qui sont là pour chacun et pour savoir vers quoi aller.
Comment gérer et tout ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment l'accompagnement, vous l'avez vu en début de partage quand on a parlé du multisite. On a mis en avant le fait de lever de nouveaux ouvriers, que l'église soit une pépinière pour les nouveaux talents. Et ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons mettre en avant. Et on peut commencer dès le plus jeune âge, dès un jeune baptisé puisse entrer dans cette vision-là de « je veux répandre cette bonne nouvelle de l'Évangile ». Amen. Est-ce qu'on peut applaudir mes invités qui ont été brillants ? Hop là. Pour conclure ce temps de partage autour de ces différentes thématiques, peut-être avec tout ce qu'on a pu partager, le sentiment qui est sur nos cœurs, c'est qui est suffisant pour cette tâche ? Qui est capable ? Moi, je ne lève pas la main, je tiens à le dire. Humainement, j'en suis incapable. Et je suis persuadé qu'ici, il y a plein de gens qui se sentent incapables. On a vu hier quelques exemples de gens qui se sentaient incapables. Un Moïse. Et ce genre de personnes-là. Des gens qui se disputaient pour savoir qui était le plus grand, qui n'avaient pas forcément tout compris. Ok ? Mais le Seigneur est celui qui a créé la bouche, est celui qui met des mots dans nos bouches. Il est celui qui est capable d'ouvrir nos cœurs avec des entrailles de miséricorde pour cette population qui nous entoure. Amen. Alors, qui est à la hauteur ? En fait, personne de nous humainement. Par contre, avec le Seigneur, c'est possible, vous le croyez ou pas ? Amen. Lisons ceci et ce texte qui nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. « Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. » Bon, c'est qu'on reflète, on dégage une odeur, on peut parler de la lumière, on brille de quelque chose. Cette lumière, elle peut soit être pour aveugler, ce parfum peut soit être pour nous asphyxier. Hein, c'est ce qui est dit, hein, je paraphrase. Hein. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mènera à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui conduit à la vie. Qui donc est à la hauteur d'une telle tâche ? Il est question du témoignage que je porte, il est question du témoignage de l'Église. Qui est suffisant pour faire la volonté de Dieu ? Qui est suffisant pour ces choses ? On a vu, et c'est vraiment cela que nous voulons mettre en avant, et ce à quoi je veux m'atteler en tant que berger de cette assemblée sur l'île Jourdain et Colomiers, nous désirons nous amener le peuple de Dieu à la collaboration. Collaborer avec Dieu, collaborer avec les hommes, avec tout ce que ça implique. Paul le dira dans 1 Corinthiens 3, verset 9, « Nous sommes des collaborateurs, les collaborateurs de Dieu ». Et quand il va s'adresser à Philippe, aux Philippiens, pardon, quand il va s'adresser à l'Église, à Philippe, il va dire je recommande à Évodie et à Saint-Tiche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur, je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. » Paul s'adresse à deux femmes qui ont manifestement eu des étincelles, les unes à côté des autres, peut-être en collaborant, peut-être elles n'ont pas été d'accord sur une orientation, mais Paul dit, c'est une obligation, qu'elles travaillent en pleine intelligence, dans une même pensée, dans un même sentiment, dans ce désir. Et je crois que si humainement nous nous sentons, et moi personnellement, pas à la hauteur de la tâche que Dieu veut nous confier, ensemble, nous marquerons la différence. C'est ensemble que Jésus les a envoyés deux à deux. C'est à Paul et à Barnabas, Paul et Silas. Et toutes ces paires-là ont été envoyées pour accomplir une mission. Personne n'a accompli l'œuvre de Dieu seul. S'il croit ouvrir sa maison seul pour se faire une église, il s'autoproclame, il travaille seul. C'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que nous soyons ensemble pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Si Ulysse, tu peux m'afficher la diapo d'après, pardon. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, voilà, de vivre en bonne intelligence, se rappelant qu'elles appartiennent au même Seigneur. Et je crois qu'au-delà des différences que nous avons, au-delà des sensibilités que nous avons, nous devons nous souvenir que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous devons nous souvenir que nous avons le même Seigneur. Nous ne devons jamais oublier que Dieu ne se trompe pas. Et que dans ses castings, il n'y a pas de mauvais casting pour le Seigneur. Il sait qui il appelle, qui il place, l'Église lui appartient, c'est lui qui gère. Et vu qu'elles appartiennent au même Seigneur, et bien en fait qu'elles travaillent ensemble. Et travailler ensemble, c'est s'accorder, être dans une parfaite harmonie. C'est, je pourrais prendre l'exemple, je l'ai cité hier rapidement, celle de la guitare. Les cordes sont toutes uniques, elles sont différentes, d'une taille différente, d'un revêtement différent. Elles n'ont pas la même tension, mais en tout cas, si on dit qu'une guitare est accordée, c'est qu'elles sont accordées les unes à côté des autres. Une corde juste n'est juste qu'à côté de l'une ou de l'autre. Et le Seigneur nous rassure. Si dans la collaboration, on voit tous les défauts, tous les problèmes, tous les impossibles, Dieu il a dit que c'était son inspiration qui allait nous diriger pour travailler ensemble. Ce qui m'amène à cette deuxième acte, s'il y a collaboration, ben il faut le vouloir, vous ne croyez-vous pas ? Deux marchent-ils ensemble sans tomber d'accord, nous dit la parole. On a besoin d'être d'accord pour avancer ensemble. C'est vrai ou pas ? Moi, je ne vais pas vous obliger à aller à mes côtés. Ce serait être un dictateur. Et ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est tomber d'accord ensemble, se parler et dire « on va là ». Et c'est là où nous avons besoin de l'influence du Saint-Esprit qui va nous inspirer, nous dit ce texte. Mais ce qui m'amène à, au final, réaliser que nous avons besoin de nous consacrer, d'un retour à la consécration, ciel qui est pur, sans calcul, sans, et le texte nous l'a rappelé, hein, sans calculer à la dépense. Je ne sais pas si je l'ai lu hier ou aujourd'hui. Mais voici ce que nous dit Paul aux Corinthiens. Auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui est maintenant demeure en vous? Oui, mais ça, Nathanaël, ça s'adresse à moi personnellement. Oui, moi, Nathanaël, je suis le temple du Saint-Esprit. Et tu peux le dire avec ton prénom. Je suis le temple. Ok. Vous n'êtes donc plus maître de votre corps. Oui, la consécration, elle est personnelle. Mais nous pouvons aussi choisir de nous consacrer ensemble à l'œuvre que Dieu nous confie. Parce que le corps, il existe le corps qui est le mien, mais il existe le corps spirituel de l'Église, qui dépasse ces quatre murs, qui dépasse les dénominations, qui dépasse qui est tel pasteur, qu'est-ce qu'il a compris de tel... Ça dépasse tout cela, il y a un corps spirituel que Dieu s'est constitué. Et ce corps-là, il ne s'appartient pas à lui-même. Est-ce que tu réalises que ta vie, tes ambitions ne t'appartiennent pas ? Et tout à l'heure, on va avoir un temps de consécration, un temps où on va, Seigneur, avec cette prière, je veux faire tes projets. Ou, Seigneur, tu vois mes projets. Oui, ok, c'est bien les projets. Mais nous voulons faire le dessein de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que c'est celui-ci qui s'accomplit toujours, nous dit la parole. Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Est-ce que tu le réalises, mon frère, ma sœur ? Quel projet tu as formé ? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta liberté ? Tu ne t'appartiens plus, nous dit la parole. Si tu es né de nouveau, si tu appartiens à Christ, tu lui appartiens. Si tu décides de reprendre ta vie en main, tu es un voleur. Parce que ce que tu as donné au Seigneur, tu veux le reprendre. Ça ne marche pas. La consécration, elle est unilatérale. Elle n'est pas quand le vent souffle dans ma direction. Quand on se consacre au Seigneur, quand on vit une véritable consécration, on lui a tout confié. Notre temps, notre argent, notre énergie, nos ambitions, tout cela, on le met sur la table et Seigneur, c'est à toi. Elle est exigeante, elle est exclusive cette consécration. Peut-être qu'elle fait grincer des dents, peut-être qu'on n'est pas d'accord ce matin. Mais je crois qu'il est bon de prendre du temps pour s'expliquer avec le Seigneur. Parce qu'au final, c'est lui qui a raison. Amen. Et regardez pourquoi on peut déclarer que... on ne s'appartient pas à nous-mêmes et qu'au final, ce n'est pas si douloureux de se consacrer au Seigneur. Car c'est à un grand prix. Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire pour votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Ah, c'est sûr, on peut dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je te prie le matin, je te prie le soir, je lis ma Bible, je donne mon offrande, je viens le dimanche matin, je t'ai consacré ces créneaux-là. Mais c'est même ton corps, ta chair qui doit appartenir au Seigneur. Ce que tu fais de tes mains, ce que tu regardes avec tes yeux, tout cela, Église, c'est ça la consécration, corps, âme et esprit. Le temps pour mes passions, est-ce que ce temps-là glorifie Dieu ? Est-ce que ça élève l'homme ou ça élève Dieu ? Elle est là la véritable consécration. Et c'est vrai qu'il y a un coût et que peut-être charnellement, humainement, on se dit « mais c'est trop, moi je ne peux pas, laissez-moi tranquille. Je veux mener ma petite vie avec le Seigneur en tête à tête. Je ne veux pas parler d'œuvre de Dieu, de campagne d'évangélisation, de concours, de parler à toute notre contrée des 260 000 habitants de Jésus-Christ. Je veux vivre ma vie pour moi. » Celui qui vit sa vie pour lui la perdra. Il y a un prix à payer en disant oui au Seigneur. c'est juste le prix de nos doutes et de nos inquiétudes. Parce que le Seigneur a dit « Cherchez premièrement ». Et tout le reste, il s'en occupe. Vous savez quoi, avec ma femme, on n'a jamais manqué de rien. Même dans la maladie, Dieu nous a secourus. Parfois, il m'a fait passer sur la table d'opération. Oui, mais j'ai vu sa gloire et j'ai vu que ce qu'il avait prévu était parfait. Même quand on est au plus bas, quand on a consacré sa vie, on ne manque de rien. On ne manque de rien. Et on pourrait vous raconter des dizaines de témoignages de la providence de Dieu, qu'elles soient matérielles, financières, de la santé et même sentimentales, où Dieu nous a envoyé des hommes et des femmes qui ont été des collaborateurs, des compagnons d'œuvre, des gens avec qui on avait l'impression qu'on était du même sang, on avait grandi ensemble et pourtant on se connaissait depuis peu, parce que dans l'œuvre de Dieu, on a une famille. Alléluia! Des gens qui sont fidèles, des gens consacrés qui vous portent. Ça fait du bien. C'est ça aussi quand Dieu dit « Tout le reste vous sera donné. » Parce que combien de parfois on peut se sentir seul, même au milieu d'une foule. Il y a des gens qui sont anxieux à l'approche des fêtes de famille, même s'ils ont une grande famille. Pourquoi ? Parce qu'un sentiment de solitude les envahit, des angoisses viennent. Est-ce qu'un jour tu t'es dit « C'est peut-être pas une finalité ?» Consacre ta vie, consacre ta famille. Consacre tout ton temps, ton argent. Tu verras ô combien Dieu multiplie et combien Dieu console, combien Dieu répare des blessures du passé. Alléluia. Dans la consécration, il y a tellement de belles choses à dire, mais le temps me manque. Parce que j'ai toujours pas répondu à la question au final. Qui est suffisant pour ces choses-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui veut lever la main? Je la range dans ma poche. Qui est capable? Qui était à la hauteur? J'ai dit collaboration, j'ai dit consécration. La réponse, elle est dans la connexion. Cette connexion avec Dieu. Alléluia. Cette connexion avec mes frères et mes sœurs. C'est là où Dieu envoie. C'est là où Dieu envoie. C'est là où Dieu envoie quoi? La bénédiction. Où est-ce que Dieu a envoyé sa bénédiction quand 120 prient pendant 10 jours et attendent la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu? Où est-ce qu'elle tombe, cette bénédiction? Au milieu d'hommes et de femmes qui se sont dit on va s'attendre à Dieu, qui ont consacré du temps, comme nous allons le faire du 10 au 14, un temps de jeûne et prière, où Dieu va faire tomber sa mesure, cette mesure généreuse et abondante, bien tassée, suffisante, et en même temps, tellement extraordinaire. Dieu a envoyé le jour de la Pentecôte son esprit parce qu'il sait que nul sur la terre n'est suffisant pour l'œuvre qu'il veut confier. Et nous avons besoin d'aspirer aux dons les meilleurs. Nous avons besoin d'aspirer à des responsabilités, à prendre en charge des choses, à entreprendre, à être intelligent, à être imaginatif, à être créatif. Nous avons besoin d'aspirer à ces choses-là parce que le Saint-Esprit, il est avec ceux qui travaillent. Ils n'étaient pas là juste pour faire une réunion de prière, place de la paix à Jérusalem. Je ne sais même pas si elle existe. Ils n'étaient pas là juste pour faire une réunion entre bons chrétiens. Ils s'attendaient au Seigneur. Ils étaient dans la dépendance. Et la connexion parle de dépendance. Cette connexion parle d'inspiration, de direction. Ils avaient besoin, la tâche était trop grande. Le verset, je l'ai cité, je l'ai placé sur cette carte. Allez donc, faites de tout l'ouest toulousain des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'application de « je suis avec vous tous les jours », elle l'est par le Saint-Esprit. Je suis avec vous dans vos cœurs. Je suis avec vous quand vous allez marcher. Je suis avec vous quand vous allez décider, quand vous allez entreprendre. Oh, nous avons besoin de réaliser que ce qu'a dit Jésus dans Jean 15 en parlant du cep est une réalité et doit nous amener à genoux à dire « Saint-Esprit, viens et descends sur le temple que je suis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Combien de fois t'as essayé sans lui? Tu sais ce que ça donne. T'en as pas juste marre de faire sans lui? Venez, on essaye ensemble avec lui. Je suis sûr que ça marche. Parce que c'est écrit. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce qu'il est menteur? Est-ce qu'il a changé? Non! Il ne change pas d'avis et ses promesses sont éternelles. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni, tu viens près de Jésus, Jésus il vient près de toi. Il veut honorer ta foi et ce matin peut-être qu'il y a des gens qui sont en froid avec le Seigneur. T'as besoin de ranimer la flamme, t'as besoin de venir à ses pieds, t'as besoin d'aller plus loin dans ton intimité. Oui, t'as grandi dans l'église, tu viens avec tes parents depuis des années, oh jeune fille, jeune gars, viens personnellement à Jésus, il viendra près de toi se révéler à toi. Il veut un tête-à-tête déverser son esprit dans le temple que tu es. Un temple, il a deux fonctions. Le temple de Diane, il adore qui? Une idole. Mais le temple du Seigneur. Il adore le nom de Jésus-Christ. Dans tous les cas, tu es un temple et du coup, dans tous les cas, tu es un adorateur. Ça dépend qui tu vas adorer. Si tu veux adorer la bonne personne, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, tu as besoin de son esprit. Quand il remplit ce lieu, quand il remplit nos vies, alors, et alors seul, nous pouvons vivre toutes les dimensions de Dieu. Il est vrai que la tâche est trop grande, mes frères et sœurs. Et moi-même, j'en ai le vertige. En me disant comment on va faire pour former des gens, quelle maison on va ouvrir, quel animateur sera là, répondra présent, est-ce que les finances vont suivre. Et tant de sujets de questionnement, tant de sujets d'inquiétude qui sont tout de moins juste humains. C'est juste humain. Mais j'aimerais faire cette prière avec vous. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, viens au secours de notre incrédulité. Ô Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Est-ce que ce matin, il y a des hommes et des femmes qui vont vouloir vivre la présence du Saint-Esprit comme ils l'ont vécu à la Pentecôte? Parce que c'est à cette condition qu'on est de véritables témoins du Seigneur. Remplis de fond en comble, du vide sanitaire jusqu'au comble du Saint-Esprit. Quelle pièce n'as-tu pas laissé au Seigneur à investir? Laisse le Saint-Esprit te remplir simplement.